Docteur Robert Yarbrough, Épître pastorale, session 10. 2 Timothée entre 2h22 et 3h17. Symbole copyright 2024 Robert Yarbrough et Ted Hildebrandt. Il s'agit du docteur Robert W. Yarbrough dans son enseignement sur les épîtres pastorales, l'instruction apostolique pour les dirigeants pastoraux et leurs disciples. Séance 10, 2 Timothée entre 2h22 et 3h17. Nous poursuivons notre regard sur les épîtres pastorales, les instructions apostoliques pour les dirigeants pastoraux et leurs disciples. Et nous commençons maintenant dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 20. Et ceci est une section de 2 Timothée qui, selon le titre de la NIV, Paul traite de faux enseignants. Et au verset entre 20 et 21, il a une petite métaphore, tout comme plus tôt dans le chapitre, il a eu la métaphore du soldat, de l'athlète et du fermier. Maintenant, il a une métaphore sur, pourrait-on dire, les pots, les corbeilles à papier ou les conteneurs. Il dit que dans une grande maison il y a des objets, non seulement en or et en argent, et nous pouvons les considérer comme des réceptacles, mais aussi en bois et en argile. Certains sont destinés à des fins spéciales et d'autres à un usage courant. Ainsi, vous pourriez penser à un vase ou à un vase pour fleurs. C'est peut-être de l'argent. C'est un objectif spécial. Mais il y a aussi la poubelle, c'est à usage commun. C'est ainsi que les choses se passent dans une grande maison. Vous disposez de différents types de conteneurs. Ceux qui se purifieront de ces derniers, de l'usage commun, seront des instruments destinés à des fins spéciales, rendus saints, utiles au maître et prêts à accomplir toute bonne œuvre. Et puis il se tourne vers Timothée et lui dit, « Fuis les mauvais désirs de la jeunesse et recherche la justice. » Nous avons déjà vu ce modèle auparavant. « Fuyez ceci, mais poursuivez cela. » J'appelle cela l'éthique positive. Vous mortifiez la chair, non pas simplement en niant ce qui ne va pas, mais en vous en détournant, en vous repentant rapidement et en recherchant ce qui est bien. Recherchez la justice, la foi, l'amour et la paix, aux côtés de ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. En d'autres termes, rejoignez l'Église au sens le plus large du terme. Rejoignez ceux qui ont un cœur pur. Jésus, les bienheureux sont ceux qui ont le cœur pur. Rejoignez le peuple de Dieu dans la poursuite de Dieu. Ne vous mêlez pas des disputes insensées et stupides, car vous savez qu'elles produisent des querelles. Et le serviteur du Seigneur ne doit pas être querelleur, mais être bon envers tout le monde, capable d'enseigner et sans ressentiment. Garçon, c'est dur, mais ça y est. Les adversaires doivent être instruits avec douceur. En fait, je pense qu'il y a peut-être au moins un impératif caché là-dedans, mais nous le prendrons tel quel. Les opposants doivent être doucement instruits dans l'espoir que Dieu leur accordera la repentance, les conduisant à la connaissance de la vérité, et qu'ils reviendront à la raison et échapperont au piège du diable, qui les a emmenés captifs pour faire sa volonté. Nos observations, et je diviserai mon écran ici pour que nous puissions voir le verset ainsi que l'observation. Nous y sommes presque. Bon, observation. Quand je lis les versets entre 20 et 21, je pense à 1 Corinthiens 12, où Paul parle de « Nous sommes membres du corps, et vous avez l'oreille, et vous avez l'œil, et l'oreille ne dit pas à l'œil, je n'ai pas besoin de toi, et l'œil ne dit pas au pied, je n'ai pas besoin de toi. » Nous avons tout besoin les uns des autres. Et puis il va plus loin, et il dit « Il y a ces parties du corps dont nous ne parlons pas, mais elles sont aussi assez nécessaires. » Et donc, il dit que dans l'Église, nous devons réaliser que nous devons affirmer tous ceux qui sont membres du corps de Christ. Et à l'écran, j'ai utilisé la phrase, ça prend de toutes sortes. Parfois, en anglais américain, nous voyons une personne plutôt vague ou marginale, mais nous réalisons qu'ils en font aussi partie. Et on va dire, eh bien, il en faut de toutes sortes. Les gens, la société est composée de toutes sortes de personnes. L'Église est composée de toutes sortes de personnes. Mais Paul dit au verset entre 20 et 21 que nous devrions nous efforcer d'être des vases à fleurs et non des poubelles. Verset 20, ceux qui se purifient de l'usage commun seront des instruments destinés à des fins spéciales, rendus saints, utiles aux, et il utilise ici le mot despote, parce qu'il parle du maître de maison. Il fait une analogie, utile au maître et préparé à toute bonne œuvre, où la NIV dit, prêt à faire toute bonne œuvre. Donc, c'est juste un peu en suspens. C'est un paragraphe à lui seul. Mais je pense que ce que c'est une métaphore. C'est une analogie qui prépare en quelque sorte le terrain pour 22 et les suivants. Il va dire à Timothée, purifie-toi dans un but particulier. Laissez-vous réaffirmer dans votre dévouement à Dieu et à votre sainteté. Alors fuyez et poursuivez. Et je l'ai déjà dit, nous nions et défions la chair en marchant selon l'esprit et pas simplement en évitant le péché. En pratique, vous avez un enfant, un étudiant et quelqu'un avec qui vous travaillez à l'église. Souvent, les gens luttent contre des faiblesses et le moyen de grâce qu'ils trouveront est de trouver un moyen pour eux de prendre l'énergie qu'ils consacrent dans une direction négative. Comment pouvez-vous déployer cette énergie dans une direction positive? Parce que le péché est une pulsion donnée par Dieu et utilisée de la mauvaise manière. Et souvent, on ne peut pas nier la motivation. C'est là. Cela fait partie de votre maquillage. Très bien, comment pouvons-nous transformer cette motivation en un objectif sacré? Et, le désir de fuir la controverse, dit Jésus, béni soient les artisans de paix. Et parfois, nous devons simplement nous évader. En fait, Paul dit que cela n'a rien à voir avec certaines choses. Il y a donc des moments où nous devons quitter une situation. Nous devons, en ce sens, le fuir. C'était bien quand Joseph fuyait la femme de Potiphar. Mais la motivation qui nous pousse à faire de mauvaises choses peut être orientée dans la bonne direction. Et puis, dans certains cas, cette énergie nécessaire pour fuir vers Timothée doit être redéployée pour résister, rester ferme et interférer avec les personnes qui subissent du tort à cause de ces faux enseignants. Il y a donc beaucoup de sagesse et beaucoup d'astuces dans ce conseil pour fuir les mauvais désirs de la jeunesse et pour tourner ses pulsions dans la direction de Dieu à partir d'un cœur pur. Troisièmement, la gestion des conflits est délicate. Et à partir du verset 23, nous avons un conflit. Nous avons des arguments insensés et stupides qui produisent des querelles. Et gérer les conflits nécessite des connaissances à enseigner. Le serviteur du Seigneur ne doit pas être querelleur mais être gentil avec tout le monde? À quoi cela ressemble-t-il? Capable d'enseigner. Vous connaissez des gens qui vont dans la mauvaise direction, disons simplement que dans une certaine mesure ils ont de bonnes intentions, comment les rediriger? Eh bien, qu'a fait Jésus? Il leur a appris beaucoup de choses. Il a ordonné. Je suis donc capable d'enseigner en même temps que cela, et puis nous avons des choses qui ne se combinent pas toujours avec l'enseignement. Je veux dire, parfois les professeurs ont la main assez dure. Et parfois, les enseignants sont plutôt apathiques à l'égard de leurs élèves. Ils s'intéressent principalement à leur sujet. Les étudiants doivent attraper ce qu'ils peuvent. Eh bien, ils doivent enseigner avec retenue et gentillesse, sans rancœur, avec douceur et compassion évangélique qui peuvent récolter la moisson de la conversion. Le but est la rédemption des gens. Les gens, s'ils sont induits en erreur au point de se perdre, ils s'opposent à l'évangile. Le but est de créer un espace dans l'espoir que Dieu leur accordera le repentir. Cela demande beaucoup d'amour. Il faut la grâce de Dieu pour réellement désirer le repentir des opposants à l'évangile. C'est facile de penser que j'ai fait mon travail si je prouve qu'ils ont tort. Et je montre à tout le monde, si je leur montre, ça peut être la tentation. Mais lorsque vous étudiez même la semaine de la Passion de Jésus, lorsque l'opposition à Jésus devenait de plus en plus forte, il parlait encore aux gens de manière rédemptrice. Il ne dénonçait pas les gens. Une Pierre insiste beaucoup sur le fait que lorsqu'il a été insulté, il n'a pas insulté en retour. Il a conservé son statut d'enseignant et de berger. Et il s'est confié à Dieu pour faire ce qui était juste. C'est exactement ce que Paul dit ici, et il l'exprime dans un langage différent de celui d'un pasteur nommé Timothée. Mais il y a cette image très christique de quelqu'un qui n'est pas querelleur, mais gentil et capable d'enseigner et qui n'est pas rancunier. Et j'utilise ce mot retenu parce que j'en manque si souvent. En lisant ceci, j'ai honte de certains échanges dont je sais avoir fait partie et que je repense à ma vie. Il y a des choses que j'ai dites, des choses que j'ai écrites, des réactions que j'ai eues, et elles ne sont pas justes. Et ils ne sont pas productifs. Ils se sentent peut-être bien en ce moment, mais ils ne sont pas productifs. Et donc, ce sont des choses très importantes lorsque Paul parle de la façon de traiter avec les faux enseignants. Nous passons maintenant au chapitre 3, mais nous sommes toujours sous cette rubrique des faux enseignants. La NIV dit, mais notez ceci, et c'est l'une des 5 ou 6 utilisations du mot savoir, sachez ceci en grec. Il y aura des moments terribles dans les derniers jours. Et cela fait encore écho à 1 Timothée, et les derniers jours sont maintenant. Les gens seront, et nous pouvons le dire et le sommes, amoureux d'eux-mêmes, amoureux de l'argent, vantards, fiers, abusifs, désobéissants à leurs parents, ingrats, impies, sans amour, impitoyables, calomnieux, sans maîtrise de soi, brutaux, pas amoureux. Des gens bons, perfides, téméraires, vaniteux, amoureux du plaisir plutôt que amoureux de Dieu, ce qui résume en quelque sorte tout cela. Amoureux d'eux-mêmes, amis du plaisir plutôt que de Dieu, ayant une apparence de piété, mais reniant sa puissance. Et il y a ce mot piété que nous voyons dans les pastorales. Et ce que Paul dit ici, c'est que l'Évangile apporte une sorte de piété. Cela apporte une qualité de dévotion à Dieu qui se traduit par un comportement très différent de celui-ci. Quand les gens disent croire en Jésus-Christ, crucifié et ressuscité, alors ce genre de caractéristiques devrait être relativement rare dans leur vie. Nous sommes probablement tous confrontés à un certain nombre de ces problèmes, mais cela ne devrait pas être la caractéristique dominante de notre vie à mesure que nous grandissons dans la foi chrétienne. Mais Paul dit de noter ceci. Notez ceci. Notez ceci. Il viendra un moment où les gens, et je pense qu'il inclut les personnes associées à l'Église, c'est pourquoi il met en garde le pasteur. Les gens vont avoir tous ces indicateurs négatifs, et pourtant, parce qu'ils sont dans l'Église, c'est comme une forme de piété. C'est qui je suis et je vais à l'Église. Et il nie la puissance de la piété qu'il professe. Et il dit que je n'ai rien à voir avec de telles personnes. Évitez ces personnes. Et puis il entre dans une description plus approfondie. Ils sont du genre à se frayer un chemin dans les maisons et à prendre le contrôle des femmes crédules qui sont chargées de péchés et influencées par toutes sortes de mauvais désirs. Toujours en train d'apprendre, mais jamais capables de parvenir à la connaissance de la vérité. Et ce sont les femmes qui ne parviennent jamais à la connaissance de la vérité, et aussi les enseignants qui les égarent et qui ne parviennent jamais à la connaissance de la vérité. Tout comme Jénis et Jambrès se sont opposés à Moïse, de même ses enseignants se sont opposés à la vérité. Et ce sont des figures de la littérature juive lorsque Moïse apparaissait devant Pharaon, et diverses plaies arrivaient, et les magiciens essayaient de produire les effets des plaies à partir des malédictions que Moïse, au nom de Dieu, prononçait. Jénis et Jambrès étaient 2 personnages qui s'opposaient à Moïse et à Dieu devant Pharaon. Et il compare ces gens à Jénis et Jambrès au temps de Moïse. Ce sont des hommes à l'esprit dépravé qui, en ce qui concerne la foi, sont rejetés. Mais il dit qu'ils n'iront pas très loin car, comme dans le cas de ces hommes, c'est-à-dire Jénis et Jambrès, leur folie sera claire pour tout le monde. Voyons donc si nous pouvons donner un sens à cela à partir de quelques observations. Il y a beaucoup de choses dans ces versets. L'un des défis du ministère est de s'identifier aux pécheurs du monde. Jésus s'est identifié aux pécheurs. On le traitait d'ami des pécheurs, et ce n'était pas un compliment. Il a reçu un baptême pour le pardon des péchés. Il s'est identifié à Israël pécheur. Non, il n'a jamais péché. Il dit à Jean, le baptiseur, permets mon baptême, et dans la langue d'une seule traduction, car ainsi il nous convient d'accomplir toute justice. Cela doit arriver. Je dois m'identifier à Israël pécheur pour que le dessein de Dieu dans ma vie et mon ministère s'accomplisse. Ainsi, nous voyons Jésus côtoyer la Samaritaine et les gens qui étaient haïs encore plus que tout ce qu'elle représentait, les collecteurs d'impôts. Il s'assit et mangea avec les collecteurs d'impôts de toutes choses. Il s'identifiait aux pécheurs. Mais le danger est que nous nous conformons à ce monde impie. C'est ça le danger. Et je pense à cela pour les ministres. Je connais un ministre qui a fini par se suicider parce qu'il était célibataire. Il s'est impliqué dans le ministère du VIH il y a quelques années. Il était compromis dans ses contacts avec les gens de cette communauté VIH. Et quand il reprit ses esprits, il n'aurait pas dû se suicider, mais c'était sa solution à sa honte. Et les ministres, et même n'importe qui veut faire des disciples, qui formez-vous des disciples? Vous faites des disciples pour les pécheurs. Et vous tendez la main aux gens et vous vous liez d'amitié avec les gens. Et si vous êtes chrétien, vous avez probablement grandi en sainteté dans certains domaines, et vous ne vivez pas comme eux, et le danger serait que vous soyez poussé dans leur direction. Et ainsi, Paul souligne le caractère des gens qui finissent par être dans l'Église et qui sont certainement répandus en dehors de l'Église, et qui affectent d'avoir une religion. Ils ont une forme de piété, mais ils nient la puissance. Qu'ils soient dans l'Église ou en dehors de l'Église, cela n'a pas vraiment d'importance. Paul dit, en tant que pasteur, n'en faites pas vos compagnons d'armes. Et j'y pense aujourd'hui parce que nous avons le problème non seulement de ce que nous appelions des gens mondains dans l'Église, parfois des gens avec une vie impie notable, et pourtant nous les trouvons dans l'Église, et ils ne recherchent pas aide. Ils recherchent une affirmation. Mais nous trouvons également des mouvements extérieurs à l'Église qui accusent l'Église de ne pas faire son travail, et donc ils vont faire le travail de l'Église mieux que celle-ci ne peut le faire. Je pense à un autocollant pour pare-choc, que nous ne voyons plus beaucoup d'autocollants pour pare-choc, mais il y avait autrefois un autocollant pour pare-choc appelé Did Before Creed. Et cela voulait dire, je ne vais pas rester devant une église et dire des choses auxquelles je crois. Ce qui compte, c'est de sortir et de changer le monde. Et j'enseigne dans un séminaire presbytérien, et si vous êtes un spécialiste des dénominations, vous saurez que les presbytériens font partie d'un héritage appelé l'héritage réformé, et l'héritage réformé est connu pour une vision de l'Église dans laquelle l'Église ne cherche pas sortir du monde, mais transformer le monde. Nous voulons étendre le royaume de Dieu, la souveraineté de Dieu, la rédemption de Dieu à chaque coin, à chaque centimètre carré du monde. Je pense que c'est une philosophie noble. Mais le problème est qu'il y a ce danger de temps d'identification parce que vous ne pouvez pas changer ce avec quoi vous n'avez pas de lien. Pour s'engager, il faut se mettre en contact avec. Encore une fois, Jésus a dû contacter des pécheurs, mais il ne s'est pas laissé tromper par eux, ni convaincu par tous ses adversaires qui argumentaient et essayaient de le tromper. Vous ne dites jamais, vous savez quelque chose, vous avez raison. Je vais en quelque sorte changer mon script. Il savait ce qui devait être défendu et il l'a fait. Nous ne le faisons pas toujours, nous avons donc besoin de cette prudence. Aussi, vous pouvez lire ceci, c'est ce qu'on appelle une liste de vices, et dans la littérature ancienne, il y a beaucoup d'écrivains qui ont écrit ces listes de choses. Vous pouvez les utiliser pour vous indigner de la façon dont les gens sont pourris, mais la façon dont vous devriez lire ceci est un diagnostic et dire, comme les disciples à la dernière scène, « Seigneur, est-ce moi ? Parce que je me vois au moins ici et là. Et probablement, Dieu peut me voir à chacune de ces choses. Nous devons donc les utiliser comme outils pour réfléchir à nos voix et être honnêtes, comme calomnieux. Avons-nous dit quelque chose de calomnieux à propos de quelqu'un récemment? La calomnie est l'un des péchés les plus courants dans le ministère parce que dans le ministère, vous devez traiter avec les gens, et si vous avez un personnel, vous devez parler des gens, et il est très, très facile de sombrer dans la diffamation et les spéculations sur les motivations. Et dire des choses désagréables parce que, eh bien, nous n'aimons pas cette personne. Il est vraiment difficile de maintenir la sainteté dans votre attitude et votre discours lorsque vous faites face aux problèmes des gens, parce que notre propre justice nous fait nous sentir mieux, et nous nous sentons mieux en partie lorsque nous dévalorisons les autres. Ce n'est qu'un exemple. Nous pourrions parler pendant 5 ou 10 minutes de chacune de ces choses et de la façon dont nous y sommes tous sensibles. Deuxièmement, par la grâce de Dieu et la direction pastorale fidèle, la direction pastorale sage, la trahison complice, Jeannet et Jambres vont devenir des gens perfides et complices. La trahison complice des opposants et des exploiteurs de l'Évangile peut être exposée et neutralisée, et n'a rien à voir avec de telles personnes. Vous pouvez identifier Timothée comme étant une fausse piété. Cela peut demander un certain discernement, mais c'est surtout avec l'expérience que l'on apprend. Nous apprenons, et cela ne veut pas dire que nous devenons méchants en retour. Il l'a déjà dit, c'est ainsi qu'on s'adresse aux gens qui sont des opposants à l'Évangile, et il doit y avoir une séparation, n'ayez rien à voir avec de telles personnes. mais d'un autre côté, il y a ici un ministère positif consistant à exposer et neutraliser leurs effets. Et je ne pense pas en dire beaucoup plus sur le reste, sauf que je dirai une chose à propos de 3h6 à 9 parce que cela implique, c'est une sorte de langage euphémistique, qu'il était censé se frayer un chemin vers les foyers et gagner du terrain. Contrôle sur les femmes crédules, et puis nous avons ici de mauvais désirs. Cela implique pratiquement quelque chose comme l'adultère ou une sorte d'activités illicites. Et nous ne serions pas honnêtes au sujet de notre situation culturelle si nous n'appelions pas Dieu pour le bien du christianisme mondial, car 60% de la chrétienté mondiale, en chiffres, est catholique, et les catholiques du monde entier devraient le faire. Soyez conscients de l'ampleur du péché sexuel dans la prêtrise. Je ne dis pas ça avec joie, je dis juste qu'il y a quelque chose de profondément répréhensible aux yeux de Dieu, et on ne parle pas de 1000 ou 2, on parle de dizaines de milliers de pasteurs, des prêtres, au cours des dernières générations à travers le monde, dans la religion chrétienne confessante la plus dominante au monde. Maintenant, je ne suis pas catholique et j'ai peur pour l'enseignement du catholicisme parce que je ne pense pas qu'il soit fidèle à la Bible, dans l'ensemble. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de chrétiens catholiques, je dis simplement qu'il y en a beaucoup dans l'Église catholique qui n'entendent pas l'Évangile, et cela a été un scandale public dans de nombreuses régions du monde, reconnu par le Vatican. Que nous avons ce problème de prêtres qui s'impliquent auprès des garçons ou des femmes d'une manière qu'ils ne devraient pas l'être. Mais c'est aussi un problème dans les églises protestantes. C'est un problème dans les églises libérales et c'est un problème dans les églises conservatrices. Si vous êtes dans le ministère depuis très longtemps, vous rencontrerez ces situations. Vous serez dans une église et vous réaliserez qu'il y a une histoire dans cette église. Il y avait un employé d'église qui avait couché avec quelqu'un avec qui il n'aurait pas dû coucher. Parfois c'est extrême, parfois il s'agit de plusieurs femmes qui ont eu des relations avec la même personne ou avec différents membres du personnel de l'église. Donc cela semble un peu vague et étranger, et puis nous avons Moïse, et nous avons ce genre de Janet et Jambres mythologiques, et il y a beaucoup de choses floues ici, mais c'est très, très graphique pour nous, et nous vivons dans une culture très sensuelle où même si les gens sont fidèles physiquement, il y a tout le problème d'Internet et le problème de la dépendance au porno de la part des gens qui ont beaucoup de temps pour être là. Internet, et cela inclurait de nombreux membres du personnel de l'église, et ils pourrissent leur cœur, et ils détruisent leur caractère par le péché sexuel par contumace. C'est juste virtuel. Mais Dieu connaît le cœur, et probablement au moins dans de nombreux secteurs de l'Occident, l'impuissance de la prédication et le vide de la préparation à la prédication sont principalement attribués à la maigreur de l'âme et du cœur causée par la corruption de ce que les gens regardent en ligne. À en juger par ce que j'ai lu et par ce que je sais même des étudiants du séminaire, il s'agit d'un problème énorme qui affaiblit le caractère des personnes qui professent la piété. Ils peuvent être séminaristes, ou pasteurs, ou professeurs de séminaire, mais ils ne peuvent pas échapper à cette dépendance. Ils nient la puissance qui a ressuscité Jésus des morts. La résurrection de Jésus d'entre les morts, mais je ne peux pas me débarrasser de la pornographie. Quelque chose ne va pas là. Donc des paroles très, très puissantes pour une église, et le monde virtuel est partout. Je veux dire, vous pouvez aller dans des endroits qui n'ont pas d'électricité, mais même dans des endroits qui n'ont pas d'électricité, beaucoup d'entre eux ont des capteurs solaires, et donc ils ont toujours de l'électricité même s'ils n'ont pas de ligne de transmission. Et ce que je dis, c'est que la décadence que nous associons à l'Occident est en réalité la décadence de l'humanité tout entière. La maltraitance des garçons en Afghanistan et dans d'autres pays musulmans est une réalité, et ce n'est pas à cause de l'islam en soi, c'est à cause d'Adam et Ève et du péché, et la forme que prend la corruption chez les hommes et les femmes est l'expression de désirs erronés. Direction. Et quand on parle d'hommes et de femmes, eh bien, il est évident où cela nous mène. Il s'agissait donc de s'occuper des faux enseignants et des faux enseignements. Nous passons maintenant à la charge finale adressée à Timothée, et cela commence au chapitre 3, verset 10. Et je pense que nous avons le temps de la terminer tout en gardant cette conférence d'une longueur raisonnable. Mais vous, et c'est catégorique. Il n'utilise pas souvent le pronom personnel. Il n'est pas obligé car en grec, le verbe contenait le pronom. Mais parfois, il dit sigma, yupsilon, su. Mais vous savez tout de mon enseignement, de ma manière de vivre, de mon objectif, de ma foi, de ma patience, de mon amour, de mon endurance et de mes persécutions. Je suis tellement contente qu'il ne l'ait pas mis ici. Souffrance. Il abandonne simplement les associations avec sa vie à cause de l'Évangile. Et ce qu'il va dire ici, c'est que l'Évangile a fait une différence jour et nuit pour moi. Aussi douloureux que cela puisse être, j'ai adoré ce que cela causait. Le genre de choses qui me sont arrivées à Antioche, à Iconium et à Lystre, les persécutions que j'ai endurées. Ceci est particulièrement remarquable car tous ces endroits qu'il a mentionnés sont tous des endroits où Timothée a grandi. Ainsi, Timothée était un garçon à Lystre, à notre connaissance. Et Antioche, c'est Antioche de Pisidie, ce n'est pas Antioche en Syrie, la capitale de la province romaine qui surveillait Jérusalem, la Judée et la Samarie, la Décapole et toute cette région. Il y avait environ une douzaine d'Antioches dans l'Antiquité. Voilà donc l'Antioche de Pisidie, et l'Antioche qui était comme une entrée dans la province romaine de Galatie. Et Iconium et Lystre se trouvaient dans cette province romaine de Galatie. Et c'est là que Paul et Barnabas ont exercé leur ministère lors de leur premier voyage missionnaire. Et vous vous souvenez de ce premier voyage missionnaire dans Actes entre 13 et 14, Paul et Barnabas ont exercé leur ministère pendant quelques années. Mais plus ils exerçaient leur ministère, plus ils allaient dans les synagogues et prêchaient Jésus et ils avaient une assez bonne audience. Mais plus ils exerçaient leur ministère, plus l'opposition juive se rassemblait contre eux. Finalement, ils lapidèrent Paul et le laissèrent pour mort. Ils l'ont traîné hors de la ville, l'ont lapidé et ont dit, « Nous l'avons tué. » Et ils l'auraient peut-être fait. Nous ne savons pas d'après la langue s'il a été ressuscité ou s'il n'a pas été ressuscité. Mais il était pour ainsi dire mort. Et le Seigneur, dit-il, m'a délivré de tous. Ainsi, dans la section précédente, il a parlé de toutes les mauvaises choses qui se sont produites dans le monde. Mais maintenant, il parle de l'enseignement. C'est un enseignement qui l'a transformé d'un blasphémateur, d'une personne violente et d'un meurtrier. Il était comme ces gens à qui il vient de dire, il n'a rien à voir avec ces gens. Maintenant, il se retourne et dit, il y a un message qui change les gens afin qu'ils puissent vivre une vie qui glorifie Dieu et je montra. Et puis il l'élargit au verset 12. En fait, tout le monde, et la langue grecque est plus, quiconque désire vivre pieusement en Jésus-Christ sera persécuté. Et la NIV élargit cela un peu. Tous ceux qui veulent vivre une vie pieuse en Jésus-Christ seront persécutés. Tandis que, d'un autre côté, les malfaiteurs et les imposteurs iront de mal en pis. Les gens qui font le mal et les gens qui prétendent être chrétiens ou prétendent être pieux mais ne le sont pas, vont aller de mal en pis en trompant et en étant trompés. Mais quant à vous, voici Timothée entre les deux. Il peut voir la forme de la piété sans sa puissance. Il peut voir les malfaiteurs et les imposteurs aller de mal en pis. Il peut voir les trompeurs et les trompés. Et puis il peut voir Paul. Il peut alors voir Christ qui a soutenu Paul. Et il doit continuellement prendre une décision, de quel côté de la barrière est-ce que je veux être? Et Paul dit, quant à vous, ce qui vous ramène en quelque sorte à 3.10, vous cependant, mais quant à vous, au verset 14, poursuivant ce que vous avez appris et dont vous êtes devenu convaincu. Parce que vous connaissez ceux de qui vous l'avez appris. Il faisait partie d'une vénérable tradition remontant à Dieu appelant Abraham et Dieu faisant des promesses d'alliance à David. Vous savez de qui vous les avez appris et comment, dès votre enfance, vous avez connu les saintes écritures qui peuvent vous rendre sages pour le salut par la foi en Jésus-Christ. Vous savez, cette parole de la Torah, cette parole des prophètes, cette parole des psaumes telle qu'elle était chantée, telle qu'elle était exposée, telle qu'elle était priée dans la synagogue, telle qu'elle était priée à l'heure des repas et des rituels de dans les foyers de l'Ancien Testament, Dieu ne s'est pas laissé sans témoin et il y avait un reste parmi le peuple de Dieu avant même la venue de Jésus. Ils attendaient la consolation d'Israël. Ils attendaient l'accomplissement des promesses de Dieu et lui, Timothée, avait la bénédiction d'être dans une telle maison. Ainsi, dès l'enfance, on lui a inculqué ces vérités rédemptrices qui pourraient vous rendre sage pour le salut par la foi en Jésus-Christ. Or, ils n'avaient pas Christ Jésus jusqu'au premier voyage missionnaire. Mais ils avaient la promesse de Dieu qui allait s'accomplir en Jésus-Christ et c'était tout aussi bien. Leurs âmes furent tout aussi sauvées. Et Timothée fait partie de cette merveilleuse génération de transition avec sa mère et sa grand-mère. C'étaient des juifs pieux qui attendaient la promesse de Dieu. Les chrétiens pouvaient dire qu'ils étaient sauvés. Ils ont été sauvés. Ils avaient un cœur qui, comme le disent les psaumes, m'a créé un cœur pur, ô Dieu. Ils ont eu la purification de la promesse de Dieu et je crois en l'Esprit de Dieu. Mais maintenant que Christ est venu, vous pouvez regarder en arrière le ministère salvifique de Christ et son ascension et Paul réfléchir à la puissance des Écritures, et ne sommes-nous pas heureux que cela soit dans la Bible? Cela serait vrai simplement par déduction de ce que nous voyons à propos de la Bible. Mais c'est une déclaration très explicite sur l'inspiration de l'Écriture. L'inspiration vient de ce mot, inspiré par Dieu, qui ne signifie pas vraiment inspiré. Cela signifie expiré par Dieu ou expiré par Dieu. Mais surtout dans la tradition latine, inspiré est un mot latin. Ce mot est entré dans la langue anglaise et, vous savez, ça va. Mais ce n'est pas aussi graphique que cette image d'un Dieu qui parle de manière intelligible aux gens et qui parle en expirant sa parole. Cela ne pourrait pas être plus organique, ne pourrait pas être plus connecté avec le Dieu qui le donne. Et cela ne veut certainement pas dire qu'il y avait des gens inspirés. Cela signifie que les mots sur la page ont été expirés par Dieu. Et cela s'applique à l'ensemble de l'Écriture, certaines personnes veulent l'interpréter. Chaque écriture inspirée par Dieu est expirée. Inscripturée expirée par Dieu et elle est utile pour enseigner, pour reprendre, pour corriger. Il n'y a pas de « et » en grec pour la formation et la droiture. Oui, il a une sorte d'utilité quadruple. Je ne pense pas que ce soit exhaustif mais c'est certainement représentatif et riche. De sorte que, avec le résultat que, servante de Dieu, vous, les filles, traduisez que l'homme de Dieu soit parfaitement équipé pour toute bonne œuvre. J'ai tendance à vouloir le traduire homme de Dieu parce que je pense qu'il veut que Timothée s'applique à lui-même et il l'a déjà appelé homme de Dieu à la fin de 1 Timothée. Mais la NIV ne veut pas que cela semble si spécifique au genre et le mot peut certainement aussi signifier personne de Dieu. Ainsi, ils traduisent serviteur au lieu d'être humain ou d'homme. Afin que le serviteur de Dieu soit parfaitement équipé pour toute bonne œuvre. Nous voyons tout d'abord la fidélité apostolique par la grâce et le sauvetage de Dieu servir le temple pour tous les futurs disciples, en particulier les dirigeants comme Timothée. Je veux dire que dans les versets entre 10 et 11, Paul ne se vante pas. Paul rappelle à Timothée ce que Dieu lui a fait traverser parce que Dieu va devoir aider Timothée à traverser certaines choses et Paul ne sera pas là pour l'encourager et interférer pour lui. Il est donc important que, aussi douloureux que cela puisse être, Timothée y repense. Et remarquez que Paul ne dit pas que vous savez que Christ est mort sur la croix et que j'ai traversé toutes ces choses et que certains m'en ont laissé pour mort. Mais maintenant, dans l'Église, Jésus nous délivre de cela. Ce qu'il dit, c'est que tous ceux qui désirent vivre pieusement en Jésus-Christ connaîtront leur jour de malheur. Vous allez avoir votre jour de rejet. Vous aurez peut-être votre jour d'arrestation. Vous aurez peut-être votre journée, votre saison, qui sait? Qui sait? Demandez aux pasteurs du monde entier qui sont actuellement en prison ou non. Quand j'étais dans un pays et que la sécurité était réprimée, ils ont arrêté mon traducteur. Et elle était juste une pieuse membre d'église. Mais pendant 40 jours, personne ne savait où elle se trouvait. Et c'était très, très sinistre. Tout ce qu'elle faisait, c'était simplement traduire pour que les gens puissent comprendre mes conférences dans cette langue. Mais Dieu l'a aidée à s'en sortir. Nous lisons entre 10 et 11 et il y a quelque chose dont nous devons nous souvenir ici et en fait c'est un facteur tout au long du témoignage apostolique mais nous savons quelque chose, nous le nommons pour lequel il n'avait pas de nom et nous l'appelons SSPT. Trouble de stress post-traumatique. Maintenant, je pense que la grâce de Dieu a agi si puissamment dans la vie de Paul que je ne vois pas beaucoup de signes indiquant qu'il était un individu désordonné. Mais les gens qui ont vécu des choses comme Paul ont été affectés émotionnellement et psychologiquement. et cela peut les tordre et les déformer, mais cela peut aussi être une source de sagesse très profonde et d'authenticité très profonde. Paul n'était pas un cinglé. Et tout comme nous ne devrions pas idéaliser le licenciement, nous ne devrions pas idéaliser les persécutions et les souffrances de qui que ce soit parce qu'elles sont traumatisantes. Et par la grâce de Dieu, nous pourrions très bien y survivre et vivre pour combattre un autre jour et nous pourrions être de meilleures personnes à certains égards pour eux, mais nous porterons ces cicatrices. Et j'ai côtoyé des gens qui ont été torturés et vous savez que ce sont des gens très pieux et très productifs dans le royaume de Dieu, mais il y a là une obscurité que la grâce de Dieu sert, mais c'est extrêmement douloureux. Et cela les expose au danger d'une paralysie semblable à l'immobilité. S'ils se laissaient entraîner dans l'état dans lequel ils se trouvaient lorsqu'ils étaient torturés. Je connais un cas où il y avait une situation dans laquelle je m'occupais et les yeux d'un homme allaient dans ce sens et un dans un autre et on pouvait dire que quelque chose n'allait pas et parfois dans nos conférences, il se levait simplement et commençait à crier. Au début, j'avais très peur, mais les gens le tiraient vers le bas, passaient leurs bras autour de lui et lui parlaient. Finalement, après quelques jours, j'ai dit, « Tu sais ce qui ne va pas avec cette personne. » Eh bien, ils l'ont gravement torturé et il n'a plus jamais vraiment eu raison. Lorsque vous lisez ce troisième passage du 2 Corinthiens ou 3 Corinthiens, il donne 2 Corinthiens 11 à propos du verset 36 environ dans le chapitre 12, vous voyez que Paul a été battu 3 fois, par exemple 39 coups de fouet. Il a été lapidé et laissé pour mort. Il a traversé beaucoup de choses et il a été fidèle à travers ces choses. Dieu l'a fait traverser ces choses, non sans une prise émotionnelle et psychologique. Mais je dis cela parce que cela nous met au défi de prendre cela au sérieux. Premièrement, parce que nous entrons dans une zone où de nombreux chrétiens sont tués tout le temps et si vous écoutez ceci, vous vous trouvez peut-être dans une partie du monde où des chrétiens sont arrêtés et tués et nous avons désespérément besoin de retrouver le plein effet. De ce témoignage que Dieu peut nous faire traverser et non pas le romantiser, mais reconnaître à quel point c'est terrible à endurer et reconnaître que nous avons besoin de la grâce de Dieu pour avoir du courage. Nous avons besoin de la grâce de Dieu pour continuer à prendre les décisions qui, nous le craignons, nous conduisent à une confrontation avec les autorités. Cela ne va pas être agréable pour nous mais nous réalisons que nous n'avons pas le choix. Notre Seigneur nous conduit et nous pouvons le voir venir. Nous ne voulons pas y arriver, mais si cela arrive, Dieu nous aide à être prêts. Nous ne voulons pas faire honte au nom de Jésus en le reniant à cause de notre peur de la douleur ou de la souffrance. Donc, je pense qu'il expose cela et je pense que c'est graphique pour Timothée, surtout si Timothée était un enfant dans cette région et qu'il en a entendu parler et peut-être que nous ne le savons pas. Il dit que vous savez tout sur mon enseignement, mes persécutions et les choses qui m'arrivent dans votre région. Peut-être que sa mère, sa grand-mère, peut-être Timothée l'ont peut-être vu se faire lapider. Mais je pense que c'est graphique et je pense que c'est un modèle pour tous les futurs disciples, surtout en ce qui concerne le verset 12, car tous les chrétiens peuvent s'attendre à une certaine forme et à un certain niveau d'opposition digne d'être qualifié de persécution à un moment donné de leur marche chrétienne. Et dans certains appels et dans certains contextes, cela peut être fréquent, cela peut être chronique et cela peut être grave. Cela peut être mortel. Pendant ce temps, les méchants peuvent prospérer. Les gens qui dénoncent les chrétiens, ceux qui dénoncent les chrétiens dans certains pays où les chrétiens se réunissent secrètement, puis les informateurs sont toujours à la recherche d'occasions pour retrouver ces gens, car s'ils les dénoncent, ils sont récompensés. Cela ne semble pas juste, mais c'est comme ça. Enfin, les Écritures, que nous appelons à la fois l'Ancien et le Nouveau Testament, orientent depuis longtemps les pensées et la vie des fidèles de Dieu. C'est assez remarquable quand on regarde le monde moderne et le mépris que nous trouvons parfois dans l'Église même pour les Écritures, les parties de l'Écriture que l'Église n'aime pas, dont on n'entend jamais parler. Ou alors ils le changent. J'ai un livre qui s'appelle, eh bien, il s'appelle la Bible mais il a été traduit par quelque chose comme le Comité pour l'égalité biblique ou quelque chose comme ça. Et c'est un groupe de catholiques qui affirme l'ordination des homosexuels et des femmes et ils ont traduit toute la Bible mais le mot Seigneur n'y apparaît pas. C'est une Bible où les mots ne sont pas, ce sont tous des mots politiquement corrects. Donc, Jésus n'est plus le Fils de Dieu et il y a juste beaucoup de choses. Il n'est plus Seigneur, il est autre chose. La Bible est dévalorisée dans l'Église du monde moderne, mais pour Paul, elle constitue la bouée de sauvetage pour un service fidèle. Timothée devrait continuer dans cet héritage d'une haute vision de la parole écrite de Dieu. Depuis votre enfance, vous connaissez les Écritures. Cela peut vous rendre sage pour le salut par la foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi, dans le meilleur des cas, les Écritures sont si appréciées et chéries dans l'Église semaine après semaine. Ce n'est pas une tradition morte. Vous savez, ce n'est pas un manque de créativité. Ce n'est pas pourquoi ne pouvons-nous pas penser à autre chose à faire. Il ne s'agit pas d'une activité aléatoire dans laquelle l'Église s'est retrouvée coincée. C'est comme si Pierre disait à Jésus dans Jean chapitre 6 quand Jésus dit « Vas-tu me quitter aussi ?» Et Pierre dit « Seigneur, à qui irions-nous ? Vous avez les paroles de la vie éternelle. Et il n'existe aucune autre source pour le salut des hommes. » Que nous parlions au début ou que nous parlions semaine après semaine, nous avons tout besoin d'une nouvelle communion avec Dieu à travers sa parole. Et nous avons besoin de Timothée qui est profondément instruit, profondément appelé et profondément doué pour être nos serviteurs parce que nous ne sommes pas tous appelés et doués pour être des ministres de la parole. Nous sommes tous appelés et doués pour être des disciples. Mais Dieu a une oikonomia. Il a une structure pour cela et dans cette structure, nous avons besoin de bergers pour nos âmes. Et nous avons besoin d'enseignants pour notre esprit, notre cœur et notre vie. Et ce sont nos pasteurs. Et leur principal outil sont les Saintes Écritures. C'est inspiré par Dieu et c'est rentable. C'est utile. C'est pour enseigner, pour réprimander. Nous allons entendre des choses que nous n'aimons pas. C'est plus négatif pour la correction. C'est douloureux mais c'est positif. On nous corrige. Et puis la formation. Et cette formation est un mot de discipline pour les enfants. Ou on pourrait dire comme former un berger allemand. Il devient habile à entendre et à faire. Formation à la justice afin que l'homme de Dieu ou la femme de Dieu, le serviteur de Dieu, soit pleinement équipé pour toute bonne œuvre. Et vous savez, dans ces deux versets, nous avons en quelque sorte le Saint Graal que nous pourrions dire du discipulat chrétien. Quel est le but du discipulat chrétien? Le but du discipulat chrétien est d'être en communion avec Dieu de telle sorte que, grâce à la parole de Dieu, nous soyons pleinement équipés. Pas seulement équipés, mais entièrement équipés, non seulement pour une bonne action de temps en temps, mais pour toute bonne œuvre que Dieu nous propose. Et parfois, la liste peut être très impressionnante. Mais grâce aux Écritures qui nous sont administrées, bien sûr par le Saint-Esprit mais aussi par des serviteurs de Dieu comme Timothée, nous pouvons être adéquats. Nous pouvons être entièrement équipés pour ces bonnes œuvres. Et c'est une note très haute et forte sur laquelle se termine le chapitre 3 de 2 Timothée. Il s'agit du docteur Robert W. Yarbrough dans son enseignement sur les épîtres pastorales, l'instruction apostolique pour les dirigeants pastoraux et leurs disciples. Séance 10, 2 Timothée entre 2h22 et 3h17.